L'annonce se profilait depuis quelques jours. C'est aujourd'hui que la RP1 à hauteur de Saint-Louis rouvre. Elle est pour le moment soumise à quelques contraintes d'heure. On voit tout ça en début de journal. Politique et Sonia Backès qui s'est exprimée depuis Paris. Elle a de nouveau fait part de sa réaction après la déclaration du Premier ministre, mais a aussi évoqué son déplacement prochain à New York. La province Nord, toujours victime de nombreux feux de brousse. Dernier en date, celui de Pointe-Boutte. Près de 700 hectares sont partis en fumée en une semaine. Dans ce journal, nous vous ferons vivre au plus près la foire du Pacifique. Nous retrouverons Nicolas Legrand, qui est en direct de notre stand RRB. Il sera accompagné de l'organisateur de la foire, Bruno Aurelio. Le silo entame sa traversée de Nouvelle-Calédonie pour vous faire découvrir tous les livres océaniens. Reportage dans cette édition. Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal Info Weekend pour tout connaître de l'actualité en Calédonie, dans la région Pacifique et dans le monde. Cette annonce était attendue. Au Mont d'Or, la RP1 a partiellement rouvert. Hier se déroulait une opération de déblaiement par la gendarmerie au niveau de la tribu de Saint-Louis. L'axe est encore sous surveillance. Le Haut Commissariat annonce que pour le moment, les usagers peuvent emprunter la route de 6h à 9h, puis de 15h à 18h. Pendant près de 5 mois, la traversée de Saint-Louis avait été déconseillée. Écoutez la réaction de Florent Perrin, président de l'association Citoyen Mondorien.
C'est une grande avancée pour les Mondoriens et puis pour les gens d'IAT, puisque c'était vraiment très attendu. Aujourd'hui, on était au 150e jour de blocage. Donc, c'est une très bonne chose. Maintenant, il va falloir que la population reprenne confiance à la sécurisation de l'axe. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. Les réactions des Mondoriens ce matin, on attend un petit peu de voir. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose que la route soit réouverte. Donc ce matin, l'ouverture s'est très bien passée. Il y a eu en gros une vingtaine de Mondoriens du Sud qui sont passés et tout s'est bien passé. Donc on va voir pour cet après-midi. Et petit à petit, effectivement, je pense que la route réouvrira complètement. Alors c'est bien aussi d'avoir fait le test en week-end parce que effectivement les gens ne vont pas au travail. Donc ça permet de voir si le dispositif fonctionne. Et puis on verra après lundi. En tout cas, les navettes vont continuer. J'ai eu cette assurance de la part de l'État et de la province sud pour que les gens qui n'ont pas encore tout à fait confiance puissent encore se rendre à Nouméa par le biais de la mer.
Le haut-commissaire Louis Lefranc se rendra avec Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud, cet après-midi à Saint-Louis pour constater les avancées. Et cette autre information pratique, les mesures de police administrative sont une nouvelle fois prolongées. Pas d'assouplissement pour cette fois. Le couvre-feu s'applique sur l'ensemble du territoire de 22h à 5h du matin jusqu'au 14 octobre inclus. Concernant la vente d'alcool, elle est soumise aux restrictions actuelles jusqu'au 3 novembre. On rappellera que la limite est de 4 litres par jour et par personne pour les boissons type bière, de 2 litres pour les boissons n'excédant pas 22 degrés comme le vin et d'un litre pour les alcools forts. L'interdiction du port d'armes, de carburant et de rassemblement dans le Grand Nouméa a été prolongée jusqu'au 14 octobre. Au chapitre politique, Sonia Backès s'est exprimée à Paris lors d'une conférence de presse. Elle a de nouveau fait part de sa réaction après la déclaration de politique générale du Premier ministre, mais a aussi évoqué son déplacement prochain à New York, Michael Juneski.
Mais d'abord, à propos des deux déclarations de politique générale prononcées par Michel Barnier à l'Assemblée nationale, puis le lendemain au Sénat, la chef de file des loyalistes n'hésite pas à dire qu'elle a été dans un premier temps choquée avant d'être un peu rassurée, selon ses propres mots.
C'est vrai que là, on a été très choqués. Il y a eu un découragement assez fort des loyalistes sur la première déclaration du Premier ministre avec un sentiment que tout ça pour ça. Des choses pas claires sur le dégel du corps électoral. Et puis le lendemain, il a dit qu'on allait devoir passer par l'élargissement du corps électoral. Donc ça veut dire qu'il y aura une forme de dégel. Moi, aujourd'hui, je reste plutôt dans un état de vigilance. C'est-à-dire que je considère que ce qui s'est passé à l'Assemblée nous met une alerte. On va être vigilant sur la manière dont le dossier est traité, parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'avoir un regard, de chercher un équilibre permanent avec les gens qui ont tout cassé. On ne peut pas donner raison aux gens qui ont tout cassé. Et malgré tout, la première déclaration, c'était plutôt ça.
Le Premier ministre a annoncé notamment une mission de concertation et de dialogue qui doit être menée par le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Sonia Backès y est favorable, mais la présidente de la province sud attend désormais du concret.
Des missionnaires, on en a eu plein. Je suis très heureuse et j'ai beaucoup de respect pour Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet. C'est très bien qu'ils viennent, mais s'ils viennent, il faut qu'ils viennent faire des annonces parce que la Calédonie est en train de s'effondrer. Les chefs d'entreprise n'ont aucune visibilité. Les salariés qui sont au chômage savent pas comment ils vont finir les mois, comment ils vont payer leurs échéances. Donc, on n'a plus envie d'avoir des gens qui viennent voir. On a envie d'avoir des gens qui nous apportent des réponses concrètes de comment on fait pour... reconstruire la Nouvelle-Calédonie.
La chef de file des loyalistes a aussi évoqué son déplacement prochain à New York, au siège de l'ONU, où va se réunir devant le comité des 24, la quatrième commission chargée des questions politiques et de la décolonisation. Selon Sonia Baquès, les partisans de la France ont négligé pendant plusieurs années ce qui est devenu une tribune politique à New York, où la voix des indépendantistes était devenue la seule à se faire entendre pour évoquer le dossier calédonien. Désormais, les partisans de la France y participent et font à leur tour entendre leur voix avec des résultats très encourageants qui changent la donne, selon Sonia Baquès.
Il y a quelques années, l'ONU avait la vision exclusive des indépendantistes. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y avait un rapport de l'ONU, qui quand même pèse au niveau international, au niveau national, donnait raison aux indépendantistes. Depuis qu'on y va, qu'on donne notre vision des choses, l'ONU, on a fait nécessaire pour que l'ONU assiste aux élections et voit qu'il n'y avait pas les tricheries que les indépendantistes annonçaient à l'époque. Bah aujourd'hui, l'ONU a une position de respect du processus qui a été mené par la France. Et donc aujourd'hui, l'ONU n'est plus le C24, qui est quand même pas a priori plutôt nos alliés, puisque c'est la commission de décolonisation, donc plutôt des gens qui sont naturellement pas forcément nos alliés, aujourd'hui ont une position plutôt de soutien ou à minima de neutralité. Les gens se demandent parfois à quoi ça sert qu'on aille voir tous les gens qu'on va voir. Et concrètement, ça permet d'avoir les deux versions, d'avoir la réalité de ce que vivent les Calédoniens que nous représentons. Et ça joue énormément. Ça joue sur ce qui se passe au niveau international, ce qui se passe au niveau national, comment la Calédonie est accompagnée.
Sonia Baquès au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert, la présidente de la province sud et chef de file des loyalistes, qui va donc à son tour d'ici quelques jours évoquer le dossier calédonien à l'ONU devant le comité des 24.
Et politique toujours avec l'éveil océanien qui s'exprime aussi par voie de communiqué à propos du discours de politique générale de Michel Barnier. Le parti de Mila Kulotukumuli se dit notamment satisfait que Michel Barnier ait affirmé la volonté de l'État d'être aux côtés de la Nouvelle-Calédonie dans la situation que traverse le territoire. L'éveil océanien regrette toutefois que les prochaines élections provinciales soient reportées alors qu'elles devaient se dérouler en fin d'année. Il accueille enfin avec soulagement et enthousiasme la mission de concertation et de dialogue annoncée par Michel Barnier. Fin de citation de ce communiqué de l'éveil océanien.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier. 53% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent ne pas avoir été rassurés par les déclarations du Premier ministre qui a indiqué devant le Sénat que la composition du corps électoral et son élargissement pour les prochaines élections provinciales devraient être évoqués par la mission de concertation. Ils sont 47% à dire que ces propos les ont rassurés. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Justice, 1 an de prison ferme et 4 mois de sursis pour les agresseurs de 2 élus de la province sud sur l'île des Pins. Les faits remontent au 31 août dernier, Mickaël.
Virginie Ruffnac et Laura Vendégout avaient été prises à partie par des jeunes hostiles et parfois armés lors de leur déplacement sur l'île des Pins. Elles venaient apporter leur soutien à la communauté religieuse après l'incendie de l'église de Vao et échanger avec les acteurs du tourisme. Elles avaient été insultées et menacées. Leur convoi avait été caillassé et les gendarmes avaient même essuyé un jet de cocktail Molotov. Le tribunal correctionnel de Nouméa a prononcé la relaxe pour une partie des faits concernant les propos à l'encontre de Laura Vendégout. Seuls les outrages et menaces envers Virginie Ruffnac ont été retenus. Le premier homme, âgé de 31 ans, a écopé de 8 mois de prison ferme, mais aussi d'une révocation de 4 mois de sursis, soit au total 1 an de prison ferme avec un aménagement de peine sous bracelet électronique. Le deuxième, tout juste âgé de 22 ans, a écopé quant à lui de 4 mois de prison avec sursis. Le tribunal a également acté qu'un franc symbolique serait versé aux élus au titre du préjudice moral. Les deux individus ont également été condamnés à verser 20 000 francs par gendarme pris pour cible.
le nord de la Calédonie toujours touché par des feux de brousse. Depuis le début de la semaine, 14 départs de feu ont été signalés sur les communes de Koné et Pointe-Boute, où plus de 700 hectares sont partis en fumée. Hier, un important incendie s'est déclaré à Pointe-Boute, au niveau du plateau de Tia. Les pompiers et la sécurité civile ont été mobilisés et la circulation a été interrompue un temps. Rien qu'hier, plus d'une dizaine de départs de feu ont été signalés dans le nord. Les précisions du maire de Pointe-Boute, Yann Peraldi.
Le feu a pu être maîtrisé dans la nuit du côté de Tia, aux alentours de la ferme photovoltaïque. Les pompiers étaient encore en surveillance des foyers résiduels ce matin. Alors le feu a pris en début d'après-midi au niveau du village et plusieurs départs de feu le long de la RP1 ensuite qui ont suscité des interventions successives. Donc les foyers se sont rejoints au niveau de Tia en fait. Et donc les fumées épaisses soulevées par les vents qui n'ont pratiquement pas cessé. Mais ils ont fait un feu tactique pour pouvoir maîtriser le dernier front de flamme. Bon, la priorité est donnée à la protection des habitations. Il n'y en avait pas beaucoup là dans le secteur, mais ils ont dû quand même surveiller et le maîtriser aux alentours. Et il y avait quand même un point stratégique, c'était la ferme photovoltaïque de Tia. Et ils sont restés aussi en surveillance de l'antenne émettrice de l'OPT là, sur le plateau de Tia.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou. Et on a appris ce matin le décès de Wilfried Maille, 62 ans, président du syndicat des industries de la mine et de MKM, des suites d'une longue maladie. Figure emblématique du secteur minier, Wilfried Maille était président du syndicat des industries de la mine de Nouvelle-Calédonie depuis 2013. Sous sa présidence, le syndicat a su relever de nombreux défis, notamment face aux transformations de l'industrie et aux enjeux environnementaux de plus en plus présents. Dans un communiqué, l'ensemble du syndicat des industries de la mine tient à rendre hommage à sa mémoire et à saluer la contribution de Wilfried Maille au progrès du secteur minier. Le témoignage du vice-président du syndicat des industries de la mine, Alcide Ponga.
Wilfried était le président du syndicat des industries de la mine, dont moi-même j'étais le vice-président. Donc on travaillait beaucoup ensemble avec l'ensemble des collègues de toutes les entreprises minières et métallurgistes de la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une grande tristesse pour nous, même si on savait qu'il était très malade. Et au-delà de ses fonctions, bon, Wilfried, c'est quelqu'un qui est connu dans la mine. Hein. Il a pris la succession de son père dans la gestion de Maïkwawa Mine. Et ça fait maintenant des années qu'il défend les intérêts de la profession minière et métallurgique en général, hein, donc au-delà de la fonction du syndicat, hein, par son entreprise aussi MKM, donc ils se sont développés à Kwawa, ils sont venus s'implanter sur le Mont d'Or et donc ils ont développé des activités. Donc voilà, c'est une grande figure de la mine qui nous quitte aujourd'hui. En tant que vice-président du syndicat des industries de la mine, l'ensemble des entreprises minières métallurgiques ont une pensée affectueuse aujourd'hui pour sa famille, ses parents, parce qu'ils sont encore là, ses parents, hein, mais également pour l'ensemble des salariés du groupe Maille, que ça va de la mine jusqu'aux entreprises de chalandage, jusqu'aux entreprises de pneus, jusqu'aux entreprises d'hélicoptères, etc., etc. Donc, une pensée pour tous ces salariés qui perdent leur patron.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou. Et notez que la date des obsèques sera communiquée ultérieurement. Midi 13, première page de publicité. Restez bien avec nous car nous allons retrouver Nicolas Legrand à la Foire du Pacifique. Il sera en direct pour vous faire vivre au plus près cet événement. A tout de suite.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Jusqu'au vendredi 18 octobre, gagnez un séjour au Sheraton Deva. Un cadeau d'une valeur de 153 000 francs. Logez 3 nuits en bungalow traditionnel, petit déjeuner inclus pour 2 personnes. Envoyez chance au 3146. Tirage au sort vendredi 18 octobre à 14h, 148 francs le SMS. Profitez des vacances scolaires pour vous détendre au Sheraton Deva. Le resort vous accueille 7 jours sur 7 dans ses suites avec cuisine équipée à tout petit prix. Toutes les infos et actus sur les pages Facebook et Insta de l'hôtel. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Excellent début d'après-midi, la suite de votre journal, on retrouve Léana Colombo.
Et je vous le disais, disais juste avant cette pause, l'événement phare de ce week-end, c'est incontestablement la Foire du Pacifique et c'est déjà un succès. La foire a débuté hier et déjà de nombreuses personnes ont fait le déplacement des quatre coins du territoire sur place de la Moselle. Et nous retrouvons d'ailleurs Nicolas Legrand en direct sur notre stand de la Foire du Pacifique. Bonjour Nicolas.
Bonjour Léana, oui vous le disiez effectivement c'est d'ores et déjà un succès, hein. Tous les ingrédients sont là, des exposants qui avaient véritablement envie de faire vivre cet événement avec des offres attractives, des Calédoniens qui retrouvent une grande foire et surtout une météo parfaite, pas l'ombre d'un nuage à l'horizon, ambiance au micro RRB de Mickaël Jeuneschi.
Ça se passe très bien, on voit plein de gens, il y a plein de gens qu'on connaît en plus et puis et les gens ils ont le sourire, c'est bien.
Ça fait du bien de voir autant le monde, c'est bon, du bien de sortir. Puis c'est super, comme ça fait longtemps que ça fait du bien, oui.
C'est bien aussi pour les étudiants aussi qui cherchent des stages, parce que j'ai vu qu'il y avait des entreprises là-bas. Et c'est des entreprises qui correspondent à mon BTS que je fais. On voit plein de produits qu'on n'a pas forcément ici à Nouméa.
C'est pas mal, c'est sympa, c'est en plein air. Moi j'ai l'habitude de faire la foire de Paris à Paris, c'est couvert forcément. Là, c'est la foire de Nouméa, c'est à voir. Très belle journée.
Ça donne un peu ça fait du bien aux mamans, aux vendeurs, ceux qui veulent vendre les produits, quoi. Donc je pense que c'est peut-être mieux de faire deux fois ou trois fois dans l'année.
Oh, oui, il y a beaucoup de choses, mais j'ai toujours pas tout vu encore.
C'est la première fois qu'on vient tourner la foire, mais voilà, c'est sympa, il y a du monde.
Ben ça va, il y a plein de choses à regarder, à voir, il y a du tout quoi en fait.
Je trouve que c'est magnifique. Je suis tangienne, ça nous permet de sortir un peu les tavala, kékié, les ilis chez nous.
Je suis contente pour participer parce que je peux rencontrer beaucoup de personnes avec grand sourire, je suis très contente.
Il y a du monde qui vient, des exposants qui sont contents. Je reste très positive pour que les personnes viennent. Je suis originaire de Tétier. Nous avons un pôle Tétier aujourd'hui ici à la foire. Venez nombreux avec le sourire. Marourou!
Et oui, on voit beaucoup de sourires dans les allées de la foire du Pacifique aujourd'hui. Un sourire, il y en a un sur le visage de Bruno Aurélio en ce moment. Bonjour Bruno.
Bonjour Nicolas.
On peut dire que vous êtes un organisateur comblé aujourd'hui.
Ah oui, j'ai un grand sourire. Un grand sourire, on disait tout à l'heure avant de prendre l'antenne, c'est au-delà, vraiment, au-delà de nos espérances. Hier, on a fait 5000 personnes, 5000 visiteurs. On ne pensait jamais faire ce chiffre. C'est même plus que l'année passée. Alors qu'on pensait... Comme j'avais dit sur votre antenne mercredi, on s'attendait à une affluence un peu moindre par rapport aux conditions, et en fait, pas du tout. C'est tout le contraire. On a plus de monde que l'année passée. Le soleil est parmi nous aujourd'hui, depuis ce matin. Alors, j'ai pas les chiffres d'aujourd'hui, mais c'est incroyable. Il y a du monde et des sourires. Hein, on l'avait dit cette année, c'est j'aime la Nouvelle-Calédonie. On voulait que les gens se retrouvent avec le sourire. Et je crois que le pari est réussi. Tout le monde a le sourire, à la banane, côté visiteurs, exposants, les animations. Il y a tout qui coche les cases, c'est magnifique.
Ouais, justement, vous nous aviez dit mercredi aussi que vous ne vouliez pas une foire au rabais. C'est clairement pas le cas d'ailleurs. Il y a des animations tout au long de la journée. On voit les gens qui profitent des concerts notamment. Vous venez de lancer une animation à l'instant aussi.
Oui, alors, je crois un peu dans tous les sens, mais c'est le jeu. On le fait avec grand plaisir. Comme je disais, les associations ont vraiment pris à cœur cette foire en donnant de leur personne, en motivant toutes les personnes des associations. Et donc le programme est plein. Et il y a encore des animations qui se rajoutent à l'instant où je vous parle, où d'autres associations demandent est-ce qu'on peut nous aussi, on peut jouer sur scène, parce qu'on aimerait bien finalement mettre notre petite patte à cette foire. Et donc on dit oui, on refuse personne, avec grand plaisir. Ça fait plaisir de voir que tout le monde s'approprie cette foire maintenant.
C'est vraiment une foire humaine, finalement, voilà, à taille humaine. On sent que les gens ont envie de s'investir et de s'impliquer.
C'est exactement ça. C'est vraiment l'humain qui a pris le dessus. Vraiment, tout le monde veut participer d'une manière ou d'une autre. Et vraiment, ça fait chaud au cœur. Vraiment, c'est limite émouvant. Et on est très, très heureux d'être ici. Et je suis sûr que ça va bien se passer jusqu'à la fin maintenant.
Les temps forts de la journée encore à venir.
Alors, les temps forts, je prends mes petites notes.
Parce qu'évidemment, c'est vrai que le programme est dense.
Oui, le programme est dense. Donc là, il y a un concours du plus gros mangeur de tacos. On fait ça chaque année. Je trouve ça très, très marrant. C'est très américain, hein, certes. Mais voilà,
il y a des clients solides là-bas.
Ah oui, il y a des belles bêtes qui sont en pleine compétition pendant qu'on se parle. Je pense qu'ils vont avoir besoin d'une bonne sieste juste après. Et après, ben voilà, ça reflète vraiment la foire. On a des danses traditionnelles locales tout à l'heure à 13h. On a des ukulélés tahitiens à 14h. Une créatrice locale à 15h. Une parade de super-héros pour les enfants. On a un spectacle du Vanuatu à 16h, une troupe qui va reprendre du Edith Piaf, vous voyez, de la chanson française à 17h, et on va finir à 18h avec un spectacle wallisien. Donc si on est, si je pense qu'on...
Il y en a vraiment pour large, tous les goûts.
Voilà, ouais. On a vraiment, c'est la signature de la Foire du Pacifique, c'est il y en a pour tous les goûts. Et il faut que ça reste comme ça.
Eh bien, merci beaucoup Bruno Aurelio de
Pacifique
Fair. Merci
Nicolas, et j'invite, voilà, si vous avez un petit moment, ne serait-ce faire un coucou, on sait que économiquement c'est compliqué, ne serait-ce faire un petit coucou, venir une heure sur la Foire, vous verrez, vous ne serez pas déçus.
Eh bien, rendez-vous donc jusqu'à 19h ce soir, demain ouverture de 9h à 17h, avec le tirage au sort aussi du grand jeu de la Foire. Venez remplir vos bulletins et les déposer sur notre stand. On va jouer également au jeu de la roue, ce sera 14h tout à l'heure sur notre stand RRB, l'occasion aussi d'échanger avec vos journalistes et vos animateurs préférés. Vous le savez, on a aussi notre studio délocalisé, on peut faire des directs et c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc venez nous voir, surtout ne manquez pas, on est au bout de l'allée à gauche à la Foire du Pacifique. Donc Nicolas Legrand, RRB.
L'actualité festive, c'est aussi le Salon international du livre océanien qui adapte sa proposition, une édition présentée en mode dégradé, Kylinda Boicou.
Les organisateurs ont décidé de décentraliser l'événement sur plusieurs sites et d'aller à la rencontre des Calédoniens. La caravane du Silo 2024 a débuté son voyage ce matin au parc de Rivière-Salée. Au programme de cette 15e édition, des lectures de textes et la bibliothèque mobile, les explications d'Alice Pierre, la directrice de la Maison du Livre.
L'idée, c'est vraiment d'apporter le livre en proximité, de faire partir la caravane du Silo cette année de Rivière-Salée pour aller à la rencontre des gens sur le terrain. Et puis voilà, dans les quartiers qui ont aussi connu leur médiathèque brûlée. Donc ici à Rivière-Salée, on sera caméré aussi. Et puis on ira à la Foix, et puis à l'IFU, UVA et au Parc Forestier. Donc on fait toute une petite itinérance pour aller rencontrer les gens, boire le café avec eux, tisser des liens. Et on se dit que le livre, c'est un bon prétexte pour se rencontrer comme aujourd'hui. C'est la 15e édition, c'est vraiment la proximité, le lien, la parole, retisser des liens après tout ce qui s'est passé, se retrouver, se réunir, se parler. Ça nous semble hyper intéressant et c'est vraiment l'ambition du livre aussi. C'est notre patrimoine, notre lien les uns aux autres. Donc voilà, on se sert du livre pour se refaire confiance.
Parents et enfants répondent présents ce matin au premier rendez-vous du Silo 2024 à Rivière-Salée.
On est venu voir, j'ai mon petit enfant qui est là aussi, qui est venu lire. Donc là, on profite, il fait beau, il y a des beaux livres et donc on est content. Découverte de nouveaux ouvrages forcément, puisque de toute façon les livres c'est tellement riche qu'on n'a jamais terminé de découvrir des livres en fait. Donc bien sûr... Beaucoup de découvertes, plein de nouveautés. Mon enfant est très content.
Parce que j'étais intéressée de revenir au quartier de Rivière-Salée et puis de participer au Silo. Je trouvais que c'était une belle occasion de revenir avec mon petit garçon. Mais c'est aussi l'opportunité d'écouter des lectures avec Sylvain et plus tard Sylvain Lornier et plus tard Paul Wameau, je crois. Puis il y a le marché en face. Donc voilà, c'est il y a tout en un.
Je cherche un livre pour lire.
C'est pour lire des livres avec...
Et donc parmi les intervenants, comme vous venez de l'entendre, on a pu entendre Paul Wameau et Sylvain Lornier ce matin pour les lectures de textes.
Et dans le reste de l'actualité festive de ce week-end, on notera la 12e édition du festival Gomanga à la médiathèque de Dumbéa. Jusqu'à 16h, les amateurs de culture japonaise peuvent se retrouver autour de différentes activités gratuites, comme des tournois de cartes à jouer ou de jeux vidéo, mais aussi de concours de cosplay. Et à 16h, au Théâtre de Lille, les Calédoniens pourront assister aux comédies broussardes et échanger avec les auteurs et interprètes. Enfin, demain, les marchés et vide-greniers seront mis à l'honneur avec, en premier lieu, le vide-grenier de la place des Cocotiers de 7h30 à 12h30 à Nouméa. Et un vide-grenier sera également organisé au parc Paul Bloch de Ploume pour les Mondoriens. 12h23, on a une seconde pause de publicité dans ce journal. Et on voit après tout de suite l'actualité nationale et internationale.
Et t'as pas pris ton vélo pour la sortie vélo ?
Je dois le faire réparer, mais entre trouver un réparateur à côté de chez moi, digne de confiance, et pas trop cher, c'est trop galère.
Oui, enfin, là aussi, tu galères sur ton ballon sauteur.
Ou du tout. Ouh !
Avec Bonus Répare, remettre en état son vélo, c'est moins compliqué qu'on ne le croit. Trouvez un réparateur de confiance sur irréparation.eco, avec en bonus une réduction sur la facture.
Bonus Répare, c'est tout bonus.
Bonus Répare est financé par l'éco-participation versée par les adhérents à l'éco-organisme écologique.
Du 4 au 6 octobre, à la Moselle, c'est la 14e édition de la Foire du Pacifique. Une édition spéciale consacrée à la Nouvelle-Calédonie. 3 jours de fêtes et de spectacles, des promotions auprès de 250 exposants, des cadeaux à gagner, un événement incontournable. Retrouvez le programme complet sur la page Facebook Pacifique Fair NC. Un événement en partenariat avec la Province Sud, Tourisme Province Nord, Île Loyauté Explorer, la BCI, Coca-Cola Sans Sucre, la CMA, Science et RRB. Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Week-end avec actualité en métropole et dans le monde, on retrouve Léana Colombo.
Et en métropole, à peine entrée en fonction, Michel Barnier fait face à sa première motion de censure. Elle est l'œuvre des députés du Nouveau Front Populaire, mais a peu de chances d'aboutir. Le Premier ministre, qui était en visite en Auvergne pour parler agriculture cette nuit pour nous, face à une épidémie de maladie qui a touché les brebis, il a promis une enveloppe d'un peu moins de 9 milliards de francs de prêts garantis par l'État. Jean-Luc Bougeon pour Europe 1.
Oui, un Premier ministre très à l'écoute des agriculteurs qu'il a rencontrés ce matin. Il sait que ceux-ci traversent une période très difficile avec la multiplication de cas de FCO.
Bonjour, monsieur le Premier ministre.
Bonjour.
J'espère que vous allez nous soutenir pour la FCO parce que là, c'est vraiment un gros coup dur pour nous. Merci beaucoup.
Michel Barnier a donc très rapidement annoncé une mesure d'urgence.
J'ai annoncé une enveloppe de 75 millions d'euros immédiatement disponible, notamment pour faire face à cet type FCO 3 qui est émergent.
Il a également annoncé la possibilité pour les éleveurs fragilisés de contracter des prêts garantis par l'État. Autant de mesures qui ne satisfont pas cette éleveuse de brebis de Haute-Vienne.
Ça ne sert pas à grand-chose, parce que les indemnisations, on va avoir quoi au bout ? Enfin, rien, comme d'habitude. Et donc, les prêts garantis par l'État, il faudra qu'on les rembourse encore en plus de tous les emprunts qu'on a déjà. Donc non, ça ne sert pas à grand-chose.
Insatisfaction aussi des organisations syndicales qui souhaitaient une aide d'au moins 150 millions d'euros. Nos finances actuelles ne nous le permettent pas, a répondu le Premier ministre.
Ce freinage, il est indispensable. Sinon, on va droit vers une crise financière, c'est ce que je dis. Et c'est une crise financière... Moi, je veux l'empêcher. Donc, on va essayer de faire mieux ou bien avec moins d'argent.
Le Premier ministre qui a préféré insister sur les mesures de bon sens à prendre, par exemple une simplification administrative qui peut être tout aussi efficace selon lui, sans rien coûter à l'État.
Lors de son discours, Michel Barnier a assumé de demander des efforts aux Français pour faire face à la dette. Il se dit cependant ouvert à d'autres solutions que le report de l'augmentation des retraites, mesure très critiquée notamment par le Rassemblement national. L'Italie et la France s'associent pour créer une task force contre l'immigration illégale dès 2025. Bruno Retailleau était en Italie hier pour participer au G7 des ministres de l'Intérieur. Au programme, lutte contre les narcotrafics et contre les entrées illégales de migrants. Le ministre de l'Intérieur français et son homologue italien ont signé le lancement d'une unité de recherche opérationnelle et permettra une coopération entre les deux pays. Et au Moyen-Orient, Israël n'en a plus pour longtemps. Le guide suprême iranien a défié l'État hébreu lors d'une de ses rares apparitions publiques. Michael Juneski.
Le plus haut responsable de la République des Mollahs a défendu l'attaque de missiles lancée cette semaine contre Israël et a fait l'éloge des massacres menés par le Hamas le 7 octobre dernier. De son côté, Israël dit avoir éliminé plus de 250 terroristes du Hezbollah lors de son offensive terrestre au sud du Liban. Tsahal annonce la mort de deux de ses soldats touchés par des drones venus d'Irak. Enfin, les États-Unis ont communiqué ce matin sur des frappes américaines au Moyen-Orient sur une quinzaine de positions outils au Yémen.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 12h28.
Et l'heure de passer au sport, mais avant, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et à la une du sport, du football, Marseille cale encore en ouverture de la 7e journée de Ligue 1, Mickaël.
Au Vélodrome, l'OM a été incapable de dominer Angers, lanterne rouge du championnat de France. Score final, un but partout entre deux formations qui ont terminé la rencontre à 10. Marseille avait pourtant ouvert le score en deuxième période avant de voir les Angevins égaliser sur coup franc 3 minutes plus tard. Trop brouillon et imprécis. Et malgré la première entrée en jeu d'Adrien Rabiot devant son public, les Marseillais manquent une occasion de rejoindre provisoirement le PSG et Monaco en tête du championnat. Dès ce soir, on aura droit à un duel entre deux promus. L'AS Saint-Etienne recevra l'AJ Auxerre, coup d'envoi à 2h du matin. À 4h, Lille fera face à Toulouse et à 6h, le Stade Rennais affrontera l'AS Monaco, deuxième du classement.
Et l'actualité du tennis, c'est la suite des Masters de Shanghai.
Avec des Français en réussite dans le deuxième tour, Gaël Monfils a réussi à battre l'Argentin Sébastien Baez, 25e joueur mondial. Qualification également d'Alexandre Muller face au Canadien Félix Auger-Aliassime, 6-3, 6-2. Victoire victoire encore d'Hugo Humbert dans un choc franco-français face à Arthur Cazaux. En revanche, Arthur Fils a été éliminé par l'Espagnol Carbares Baena. Arthur Rinderknecht a aussi perdu contre le Chilien Alejandro Tabilio.
Et les sports mécaniques, le championnat du monde de MotoGP fait étape au Japon ce week-end.
Mais pour le moment, c'est la KTM de Brad Binder qui a réalisé le meilleur temps des essais libres. Le Sud-Africain en tête du classement provisoire devant les Espagnols Marc Marquez et Jorge Martin. Les deux Français Fabio Quartararo et Joan Zarco se sont classés 14e et 17e. La sprint race sera à suivre ce soir dès 17h, juste après la séance de qualification. Le Grand Prix demain soir, départ à 16h, heure de Nouméa.
Et le sport en Calédonie, du cyclisme sur piste avec les jeunes réunis au Vélodrome de Magenta ce samedi.
Une trentaine d'engagés pour une belle fête du cyclisme sur piste avec le championnat du comité provincial sud qui vient remplacer les championnats territoriaux en quelque sorte, compétition annulée cette année. Les familles, les proches sont venus soutenir les plus jeunes et pour les meilleurs, c'est aussi une préparation en vue des championnats de France à venir. David Chavitz est le président du comité de cyclisme de la province sud.
C'est vraiment super parce que ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de grosses compétition et donc là ça permet aux jeunes qui se sont entraînés quand même, qui ont continué à s'entraîner même après les événements, de pouvoir avoir un but. Donc là oui, de les voir, en plus on a un beau temps, donc c'est vraiment super. Ouais.
Pour certains, il y a évidemment cet objectif, un déplacement pour des échéances nationales.
Donc il y aura les championnats de France sur piste de l'avenir fin octobre, début novembre. On a 4 jeunes qui partent la semaine prochaine. Donc ils vont rejoindre 2 coureurs qui sont en métropole et qui sont déjà sélectionnés. Pour eux, l'objectif, c'est vraiment les championnats de France. Et donc là, ça leur fait une petite répétition avec voilà, une compétition. Ils ont leur petit rituel, donc ça leur permet un peu de se mettre en jambes.
Comment ça va se passer jusqu'à la compétition?
Donc on part déjà quasiment 3 semaines avant. Donc ça permettra déjà de découvrir le vélodrome de Loudéac, parce que c'est un vélodrome qui est spécial, parce qu'il ne fait que 200 mètres. On profite des vacances scolaires justement pour s'entraîner, pour vraiment avoir des séances de piste régulières et pouvoir performer. On a des critères qui étaient des critères chronométriques. Qui avait été déterminé en début de saison. Pour être sélectionné, il fallait remplir ces critères-là, faire des minima. Il fallait aussi être sérieux à l'entraînement, être présent. Et donc voilà, c'est tout un tas de critères qui ont permis de sélectionner ces 4 jeunes. Et le but, oui, c'est vraiment de revenir avec des podiums, voire des maillots de champion de France.
Elles seront engagées dans ces championnats de France à venir 2024. Louise Chavitz, Kéryl Moutry, Raphaël Delatière, Enzo Martoreggio, ainsi qu'Hervé Salin et Paul Roy, déjà en métropole.
Et puis Mickaël, il y a du foot ce week-end.
Un match amical pour la sélection A. Elle fera face à Gaïcha à 13h au stade Nouma Delhaye. Match encore une fois à huis clos. Les joueurs de Johan Zidaner qui se préparent à affronter dès jeudi prochain la Papouasie-Nouvelle-Guinée, cette fois dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde. Et puis le match de la sélection sera suivi d'un autre match amical entre Tiga et Horizon Patho. De son côté, le trophée du Grand Nouméa continue ce week-end avec également l'AS Mondor qui affrontera Magenta au Parc des Sports de Coutio ce soir à 19h.
Merci Mickaël. Midi 32, fin de cette édition. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h pour un flash d'informations. En attendant, je vous souhaite un très bon après-midi ensoleillé sur Radio Rythme Bleu.